Bon, on va peut-être recommencer. Je sais qu'il y a des personnes qui vont encore arriver, dont d'ailleurs les membres d'ASPES, dont je suis pour l'instant le seul représentant. Ah non, il y a Jacques. ce soir, en fait, c'est une des deux conférences qui sont consacrées à santé et migration. Celle de ce soir et celle du 1er décembre, où on va en fait aborder le sujet de la santé et de la migration par deux volets, hein, le volet éthique, c'est-à-dire quel accueil en fait-on aux migrants ici en France, qui se veut un pays fondateur au point de vue des droits de l'homme, hein, et puis le volet culturel. C'est-à-dire qu'on va se poser, lors de ces deux conférences, la question de la migration à la fois ici en France, santé migration en France, mais aussi santé migration dans le pays d'origine. Alors ce soir, il y a deux intervenants. Vous savez que la règle, c'est que les deux intervenants font leur exposé, et ensuite, il y a un débat, hein, qui est mené avec vous. On a jusqu'à tout, c'est toujours 23 heures maximum, 22h30. Donc, on finira vers 22h30. Donc, deux exposés. Le premier exposé par Frédéric Poupard, donc, qui travaille à Poitiers, au sein de l'ESP, l'Entraide sociale poitevine, et qui s'occupe de tout ce qui est demande de CADA, donc, qui va nous parler de ce qui se passe ici, hein. Et puis en deuxième partie, donc Anne-Cécile Oyès, qui est chargée de recherche au CNRS et à Migrinter, qui travaille à la fois à Rennes et à Poitiers, qui va nous faire un exposé, non pas sur son action à Poitiers, mais un exposé plus global et en particulier sur les soins, mais essentiellement dans les pays d'origine des migrants. Et puis le 1er décembre, nous aurons également deux intervenants, un qui sera sur un volet local et l'autre également qui sera sur un volet transculturel. Voilà, donc moi, mon travail s'arrête là maintenant. Donc c'est très très bien. Je passe la parole à Frédéric Poupard et Anne-Cécile, si tu veux venir aussi sur.
Bonsoir. Donc moi, je suis Frédéric Poupard. Je suis en fait responsable d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ici à Poitiers. Donc le centre d'accueil fait partie ici de l'Entraide sociale poitevine, qui est une association qui œuvre ici sur Poitiers depuis 1963 maintenant, qui gère un CADAC depuis en fait fin 2002, début 2003, et qui initialement a toujours des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tant en internat qu'en milieu ouvert, et gère aussi en milieu rural, ou gérer en milieu rural de l'accueil thérapeutique pour des cas sociaux plutôt lourds, mais en milieu rural. Donc en lien aussi avec l'hôpital, avec Henri Laborie sur Poitiers. Donc l'association n'est venue que vers 2002-2003 sur le secteur de l'asile. À la demande des autorités, puisqu'en fait ils cherchaient un opérateur pour travailler sur cette question-là sur Poitiers. Rapidement, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc ça, c'est un dispositif qui est un peu particulier, qui compte 20 000 places en France, enfin 20 000, 20 500 places en France, qui est géré maintenant par en fait le ministère de l'Immigration et localement via l'Office français l'immigration et l'intégration. Donc en fait, c'est un dispositif national. Nous ne gérons que 100 places, 100 places sur ces 20 000. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille à notre échelle auprès de ces populations-là. La particularité du centre, c'est que contrairement à d'autres centres, on n'a pas le choix non plus du public. C'est-à-dire que c'est bien le dispositif national d'accueil qui nous envoie le public qui est reconnu comme demandeur d'asile. Ce qui veut dire que quand ils arrivent chez nous, ils nous sont envoyés par les autorités. Et ils nous sont envoyés par les autorités parce qu'ils sont reconnus comme étant demandeurs d'asile, donc ayant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de l'endroit où séjour tout le temps de leur demande d'asile. Et ces personnes-là ne peuvent rester en CADA en fait que ce temps de la demande d'asile. Donc le temps de séjour est encadré par des procédures administratives, contrairement à éventuellement d'autres centres ou d'autres structures. Et après, au terme de la procédure, qu'ils soient réfugiés ou déboutés, ils doivent quitter le centre alors dans un délai qui va de 1 à 3 mois en fonction de leur situation administrative. Donc en fait, ça a son importance à la fois sur le choix du public et à la fois sur l'encadrement de la durée au sein du centre. Et ça a son importance vis-à-vis de la santé, puisque c'est ce qui nous rassemble ce soir. C'est qu'en fait, quand les gens rentrent en centre d'accueil, elles ont une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, voire pour certains un titre de séjour, c'est dans un cas exceptionnel. Et en fait, de par leur situation administrative et ces titres qu'ils ont en leur possession, ça leur donne accès à la CMU, éventuellement la CMU complémentaire, l'AME, voire quand ils sont en recours par rapport à la demande d'asile, ça leur donne aussi accès au marché du travail avec une dérogation de la direction du travail et une autorisation de la préfecture. Ce qui fait qu'on est dans un cas, nous, qui est à la fois privilégié et confortable du point de vue de la prise en charge des soins et des problématiques médicales, puisque les personnes peuvent bénéficier, grosso modo, du droit commun, que ce soit pour les migrants ou pour les autres. Donc on est, nous, dans un cas vraiment privilégié. Par rapport aux soins, ce que les autorités nous demandent, c'est de faire un certain nombre de contrôles allant dans le sens de la prévention de santé publique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui entrent en centre, normalement dans les 8 jours, doivent faire un test pour la tuberculose, que ce soit IDR ou radio, suivant que s'ils aient entre 0, 2 ans, 3 ans, 15 ans ou plus. Et à l'issue de ces tests et radio, il y a une visite médicale qui est obligatoire auprès d'un médecin qui travaille avec le CADA. Ce qui fait qu'en fait, dès l'entrée en CADA, le soin est pris en compte et est primordial. Donc sur Poitiers, on a la chance, on travaillait au départ qu'avec un seul médecin qui remplissait les fiches nécessaires à envoyer à l'OFI, hein, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et maintenant, on a la chance de travailler avec 6 médecins sur l'ensemble des quartiers sur lesquels on travaille, puisqu'on n'est que sur Poitiers et sur l'ensemble des quartiers de Poitiers. Et donc, il y a 6-7 médecins qui travaillent avec nous et qui font justement toutes ces visites à l'entrée du CADA et qui ensuite déclenchent derrière, s'il y a besoin, tout ce qui est contrôle, test, envoi vers des spécialistes, envoi éventuellement vers l'hôpital, envoi vers les psychologues, etc. Ce qui fait qu'il y a une orientation qui est faite. Dès l'entrée, je dirais dans les 8 à 15 jours, la santé est prise en compte dans le CADA, tant pour les enfants que pour les adultes. Donc après, pour nous, c'est en plus il y a la prise en compte des traumas divers et variés issus soit de ce que les personnes ont vécu avant de partir et des éléments qui ont déclenché leur départ, soit éventuellement de ce qu'ils ont pu connaître pendant le transit pour venir jusqu'ici, qui peut durer de quelques jours à plusieurs années pour certains, dans des conditions assez déplorables, voire même ce qu'ils ont connu ici en arrivant par ce que soient les réseaux de passeurs ou ne serait-ce que par les conditions liées à la précarité, font qu'on a nécessité de traiter des aspects psychologiques. Donc soit on peut orienter, soit on a la chance d'avoir une psychologue à mi-temps sur le centre qui nous permet au moins de faire de l'orientation, du diagnostic, de l'observation, de l'orientation et de prendre en compte aussi toutes ces problématiques de trauma dans la demande d'asile et la demande de protection. Parce que bien souvent la demande d'asile effectivement est vue comme quelque chose de procédurier et administratif. En général, il y a un lien assez fort entre les troubles psychiques et les fondements de la demande d'asile, les éléments déclencheurs. Est-ce que ça a déclenché derrière chez les personnes d'un point de vue psychologique ? Donc je dirais que pourtant que les gens sont au CADA, ils ont globalement accès au droit commun, à la fois à la prévention, la prise en charge, le traitement. Et ce n'est pas à ce moment-là que ça pose particulièrement de soucis. C'est plus à la sortie du centre pour les personnes qui ne bénéficieront pas d'une protection et qui retombent ensuite bien souvent dans la clandestinité, que là se posent les problèmes. Des problèmes qu'ils ont connus en amont de l'arrivée en CADA, puisqu'en fait ils sont en général accueillis au mieux dans de l'hébergement d'urgence, avec peu ou pas d'accès aux soins parce que pas encore de titre, parce que pas encore connaissance des structures, parce que pas encore confiance dans les structures et dans le nouveau système, etc. etc. Et donc quand ils sortent du CADA, effectivement, pour ceux qui sont déboutés et qui se retrouvent dans la clandestinité, là se pose à nouveau le problème du soin, de l'accès aux soins, de la perte justement des droits CPM, CMU, AME, etc. Donc ils n'ont plus accès grosso modo qu'aux structures d'urgence. Alors soit des structures type relais Georges Charbonnier qu'on a ici sur Poitiers, mais il y a aussi via le pass sur le CHU, l'urgence reste prise en compte, mais ça s'arrête là en fait. Et ça c'est véritablement lié à la problématique de titre de séjour tout simplement, ou au moins d'autorisation provisoire de séjour. Donc ça c'est pour les déboutés, je dirais que ce que moi j'appelle les déboutés secs, c'est-à-dire les déboutés pour lesquels il n'y a aucun mode de régularisation, aucun, après l'échec de la demande d'asile. A contrario, pour certains déboutés qui ont eu des troubles de santé, qui n'ont pas été traités complètement pendant le CADA, il y a quand même un dispositif qui existe et qui permet à des personnes donc en besoin de soins et de suivi médical d'obtenir des autorisations provisoires de séjour, voire des titres de séjour plus ou moins longs en fonction des pathologies et des traitements qu'ils ont à avoir, ou bien des interventions chirurgicales. Donc ça peut être à la fois soit ponctuel dans certains cas, soit sur du très long terme pour d'autres, sur des personnes qui sont atteintes de cancer, de longue maladie, de tuberculose, etc. Il y a moyen d'obtenir pour ces personnes-là des titres de séjour aussi. Et donc là, le soin et le médical devient aussi un enjeu pour les personnes qui n'ont pas d'autre recours administratif que celui-là, qui ne peuvent pas être régularisées pour de la vie privée familiale, pour du travail, pour x, y raisons. Et donc là, pour ces personnes-là, la santé devient un enjeu à la fois, bien sûr, pour se faire soigner, mais aussi pour obtenir un titre et pour pouvoir rester en France et accéder aussi aux structures à la fois d'hébergement et de suivi social. C'est à la fois, donc en CADA, on essaie de traiter au mieux, et le corps médical essaie de traiter au mieux. Nous, on n'est pas médecin, on se réfère aux spécialistes. Et bien souvent, il y a des pathologies qui sont traitées à minima, plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment par les personnes, parce qu'effectivement, s'il y a un échec de la demande d'asile, à leurs yeux, il y a encore cette carte à jouer qui peut être la carte soins. Et dans les deux cas, ils ont accès de toute façon aux structures de santé et à la prise en charge, et une prise en charge de droit commun. Donc il y a vraiment différents enjeux autour de ça. Alors après, il y a une chose sur laquelle, il y a un élément sur lequel on a, même si on a une psychologue en interne, on a du mal à trouver en fait des spécialistes et des structures adéquates pour traiter de cette problématique, c'est tous les troubles psy, tous les troubles de trauma, de traumatologie de guerre, tous les troubles liés à des tortures qui étaient passées, dans le pays ou ici en arrivant, notamment par des réseaux de passeurs, au mieux. Et donc là, c'est vrai qu'on a des difficultés pour trouver localement des spécialistes qui soient, si ce n'est intéressés, au moins formés et investis sur cette question-là. Donc il y a quelques centres qui sont plutôt des centres parisiens et ou lyonnais et ou marseillais qui travaillent sur la question. Donc on les connaît, on les côtoie, on essaie de travailler en réseau avec eux, en tout cas d'échanger. Mais certes, ce sont des réseaux plutôt d'expertise et de consultation pour nous, puisque les demandeurs d'asile, tous les usagers, déboutés, etc., n'ont pas accès à ces structures-là aisément, Parce que tout simplement, faut monter à Paris ou bien aller à Lyon ou aller à Marseille. Donc là, il y a une carence en termes de, à la fois de structure et de spécialistes formés et investis sur cette question-là. Donc là, depuis peu, il y a des réponses quand même qui se développent. Alors à la fois localement, bien sûr, avec certains psychologues avec lesquels on aborde la question. Enfin, ça fait 7 ans qu'on travaille la question avec eux. Et donc là, on commence à avoir un peu de résultats. Donc soit des spécialistes privés, soit public. Le privé est en particulier parce que là, il y a un manque de moyens financiers. Quand bien même ils ont accès aux droits communs, à la CMU, etc., il y a un problème de prise en charge financière pour les problématiques psychologiques. Mais dans le même temps, donc il y a ce réseau qui préexiste. Il y a 5 CADA sur la région, on travaille ensemble aussi depuis 6-7 ans sur cette question-là. Il y a une association qui vient de se créer sur La Rochelle qui s'appelle AWEL. AWEL, et qui vient tout juste d'obtenir les financements pour développer des permanences à la fois sur La Rochelle, Rochefort et Saintes, et en même temps traiter de ces problématiques-là via de l'analyse de pratique pour les interprètes qui sont souvent des acteurs qu'on a tendance à oublier dans l'accompagnement, parce que l'accompagnement des professionnels est nécessaire aussi dans tous ces aspects, notamment du trauma. Avec des psychologues qui sont formés, qui travaillent à la fois sur des aspects, enfin qui ont connaissance à la fois du droit des étrangers, des problématiques, et qui sont assez proches au moins de la CIMADE, et qui travaillent en lien avec Primo Levi. Donc c'est une action qui est soutenue par Primo Levi pour l'instant, qui est financée par le HCR, pour l'étape de lancement. Donc voilà. Et puis après, c'est souvent les personnes qui traite de ces troubles-là ont souvent connaissance de quelques-uns des territoires d'origine des personnes qui sont en demande. Donc il y a aussi le lien à la fois ethnique et culturel qui est primordial aussi dans cette prise en compte. Enfin, pour nous, qui est primordial, pas forcément pour toutes les écoles de psy. Donc voilà, il y a quelques bribes de réponses qui commencent à apparaître là-dessus, mais ça reste encore très... très, très, très faible et insuffisant. Voilà. Alors maintenant, enfin moi j'ai rencontré le docteur Vluska avant-hier, qui est directeur de la santé publique auprès de l'OFI. Donc là, il y aurait, semble-t-il, des financements accessibles dès 2010 pour développer en région des réseaux avec des professionnels. Suivi, formé, épaulé par que ce soit Primo Levi ou le réseau Samdara sur Lyon et Parcours d'exil aussi à Paris. Donc il y a peut-être des réponses, en tout cas il y a des financements, il y a une volonté de l'OFI de travailler sur cette question-là. Voilà, donc il y a le besoin, il y a éventuellement les financements, il y a l'opportunité politique de le faire. Donc peut-être qu'on va pouvoir avancer dans les mois qui viennent sur cette question-là. Enfin, en tout cas, j'espère sur 2010. Voilà, alors c'est une info à prendre avec des pincettes, hein. C'est il y a 2 jours, c'est hypothétique, et pour l'instant j'ai rien vu d'écrit. Donc à suivre. Donc voilà, et cette réalité par contre du trauma, alors c'est pas uniquement pour les publics demandeurs d'asile, donc c'est aussi une réalité pour l'ensemble des migrants, parce que y compris ceux qui viennent pour le travail, pour des raisons environnementales, pour tout un tas de raisons, subissent, et ne serait-ce que par le déracinement, et etc., subissent de toute façon des troubles et des traumas divers et variés. Voilà pour ce qui est du CADA à proprement parler. Enfin, je répondrai à des questions après volontiers, ou élargirai le champ volontiers tout à l'heure si vous le souhaitez. Travailler avec eux. Alors, il est vrai que pour accéder au CMP, alors on travaille avec eux de manière. irrégulière. Alors, ce n'est pas par manque de besoin ou ce n'est pas parce que les usagers qui ont pu passer par le CADA ne rejoignent pas les CMP ou n'ont pas eu accès en fait, aux CMP. C'est qu'en fait, on est coincé par la procédure et que bien souvent, le temps pour accéder aux CMP est relativement long. Ça, par contre, voilà. Et c'est tellement long que voilà, parfois, il faut plusieurs mois et les personnes sont déjà sorties du CADA lorsqu'ils y ont accès. Alors oui, bien sûr, je ne peux pas dire qu'on travaille étroitement avec eux parce qu'en fait, tous les cas ne passent pas par le CMP et peuvent passer par d'autres biais. Voilà. Non, ça fait partie aussi d'un ensemble de partenaires que l'on peut solliciter. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une psychologue dans l'équipe qui connaît parfaitement toutes ces structures que je ne maîtrise pas, tout simplement, complètement. Et c'est vrai qu'en fonction des cas observés, des besoins des personnes, de leur envie d'aller vers aussi des centres, ce qui est loin d'être simple pour eux que d'aller vers un psychologue et encore moins d'aller vers un centre qui est répertorié comme tel. Il y a aussi un barrage. Ce qui fait qu'entre ce temps d'observation, de diagnostic, de prise de rendez-vous, d'acceptation de la personne que d'aller vers un psy quel qu'il soit, il se passe plusieurs mois.
Alors il peut y avoir... Ah oui. Alors, il y a ceux donc à qui on peut, quand ils sont là un certain nombre de temps et reconnus comme tels, enfin vous l'avez expliqué, je pense, tout à l'heure, à ce moment-là, ceux-là vont rentrer dans les clous pour qu'on puisse, après expertise, leur demander une allocation adulte handicapé, parce qu'il y a quand même un certain nombre de patients schizophrènes, hein, en particulier. Et avoir cette allocation est quand même quelque chose de très important pour eux, puisqu'ils vont avoir enfin une subsistance mineure, mais enfin quand même, hein, et surtout une reconnaissance sociale, et être inclus dans des processus aussi sociaux, de soins, etc. Alors c'est vraiment une frange en effet peu importante. Néanmoins, comme le sujet c'est santé-migration au sens large, je me permets quand même de le rappeler aussi, puisqu'on essaye, autant faire se peut, d'aller dans ce sens-là. Il y a aussi un autre lieu, c'est quelquefois le service des urgences, où j'ai rencontré un certain nombre de personnes où on a besoin parfois de certificats, quand même, ça peut être quand même intéressant de pouvoir donner un certificat qui soit fait dans un certain sens. Comme je m'occupe aussi d'une structure où il y a des femmes, puisque je suis responsable d'unité mère-bébé, je reçois aussi un certain nombre de femmes enceintes qui sont immigrées, bon, plus ou moins avec des papiers ou pas. Enfin bon, et c'est vrai que là aussi, on essaye de faire ce qu'on peut dans ce sens-là, hein, pour pouvoir les aider avec éventuellement un traducteur, bien sûr, hein, pour certaines. Ce qui n'est pas non plus simple, parce que dans ces domaines-là, il m'est arrivé notamment une histoire, je vous la raconte 30 secondes, hein, où on m'avait dit vous allez voir une dame turque. Bon, sûrement, elle habitait en effet en Turquie. Bon, bah, on a appelé quelqu'un qui pouvait traduire le turc. Au moment de la consultation, je me lève, j'entends des cris. Et c'était l'interprète qui criait après la dame et la dame qui pleurait, parce qu'elle était turque peut-être, mais elle était surtout arménienne. Expliquant qu'elle ne parlait pas turc, en tout cas c'est ce qu'elle disait, et l'autre l'insultant parce qu'elle disait c'est une menteuse, etc. Enfin, voilà. Donc c'est quelquefois un peu compliqué les affaires. Voilà. Hein, donc,
Alors, je vois juste compléter et circonscrire un peu mon propos, c'est-à-dire que je me positionne. Comme responsable d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire que les personnes qui sont au CADA ont en général une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lié à la demande d'asile. Quand ils ont ce genre de documents de séjour, ils n'ont pas encore accès à l'AH. Alors, bien souvent, ce type d'orientation, effectivement, avec nécessité de certificats, que ce soit de médecins ou que ce soit de psychiatres et de personnes, de toute façon, qui ont un agrément préfectoral pour pouvoir le faire, il arrive effectivement qu'on les sollicite pour que les personnes puissent bénéficier dans ce cadre-là de prise en compte de nécessité de soins, qu'on puisse les orienter vers les autorités pour qu'ils puissent bénéficier d'un titre de séjour à ce moment-là pour soins. Et alors après le travail, effectivement, c'est une fois qu'ils ont ce titre, et s'ils ont ce titre depuis suffisamment longtemps, tout le travail consiste à trouver aussi des ressources et un hébergement. Et bien entendu, pour les personnes qui peuvent rester plus longtemps sur le territoire, mais là il s'agit pour nous principalement de déboutés qui s'orientent vers ces voies-là, ces personnes-là sortent du centre aussi en quelque part. Donc ça, c'est des personnes que l'on va retrouver par contre sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, le temps qu'ils trouvent un hébergement, et ou sur l'hébergement d'urgence. Et là, c'est tout le travail des accompagnateurs sociaux et des accompagnateurs sociaux de secteur en particulier qui ont à travailler aussi sur cette problématique de ressources et de prise en compte de l'ensemble de leurs besoins. Mais c'est vrai que sur le CADA, de ma position CADA, entre guillemets, on rencontre très très peu ce type de configuration. A contrario, une fois de plus, là on est en train de travailler au montage d'un dossier pour une personne qui a été déboutée du droit d'asile, qui est guinéenne. En ce moment, enfin a priori tout le monde sait à peu près ce qui se passe en Guinée, y compris pour les femmes. Et on est en train de monter un dossier à la fois pour soins et en même temps à titre exceptionnel, pour une demande de titre de séjour, parce que en invoquant le soin, c'est que au vu de ce qu'elle a vécu, sans rentrer dans le détail, la replonger aujourd'hui en Guinée via une expulsion, pour nous ce serait un risque inhumain, mais à un niveau psychologique, c'est-à-dire que ça la replongerait dans ce qu'elle a déjà vécu avec à peu près les mêmes acteurs qui lui ont fait ce qu'elle a vécu. Donc ce serait à la fois un traitement inhumain et dégradant du point de vue de la dignité. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur les aspects psychosociaux et là psychologiques. Et là, effectivement, on renvoie sur, et en l'occurrence le CMP, dans ce type de cas exceptionnel, on tente d'avoir des rendez-vous un peu d'urgence avec le CMP parce qu'on n'a que 30 jours pour agir. Après, l'obligation à quitter le territoire, effectivement, est effective. Donc il y a un risque d'expulsion. Et c'est là qu'avec des structures telles que le CMP, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas lié au CMP. Hein. Les structures sont aussi débordées. Et là, c'est là tout le travail de réseau que la psychologue a à faire, que d'arriver à mobiliser ces structures-là pour qu'elles puissent répondre dans l'urgence à, pourquoi pas, l'obtention d'un certificat pour obtenir un titre de séjour. En sachant que ça, c'est parfaitement illicite par rapport à la mission CADA que le service public nous a confiée. Donc là, c'est plus des actions associatives et c'est plus lié éventuellement au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mais ça n'a pas lieu d'être en CADA. On peut informer, mais normalement, on n'a pas le droit d'accompagner jusqu'au bout. Donc on peut changer de casquette. C'est ce qu'on fait. Mais voilà, c'est plus dans ce cadre-là. Après, cette exploitation effectivement de problématiques de soins pour l'obtention d'un titre de séjour n'arrive que lorsque la procédure d'asile est terminée, puisqu'en fait les personnes sont là en quête d'une protection, et c'est vrai que la protection tant de réfugiés qu'une protection subsidiaire les protège beaucoup plus durablement qu'une protection acquise pour soins. C'est-à-dire que le soin est parfois une espèce de roue de secours pour les demandeurs d'asile. Ce qui fait qu'ils peuvent se mettre aussi parfois en danger, c'est-à-dire ne pas forcément prendre les traitements tout au long du séjour, parce qu'ils savent que laisser traîner une hépatite, ça permet quand même au bout du bout d'espérer un titre de séjour si jamais on est débouté. Idem pour la tuberculose, sauf que là, les règles sont plus draconiennes en termes de contrôle. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je veux juste circonscrire le propos.
Denise Ribaud, infirmière au relais Georges Charbonnier. Frédéric, tu as parlé tout à l'heure des migrants, de la manière dont on parlait avec eux, tout ça. Mais j'aimerais que tu développes un peu plus la difficulté que vous avez de l'accompagnement dans les problèmes de langue. Monsieur Chavagnin en a parlé un petit peu, mais comment peut-on être efficient avec le barrage de la langue? Parce que nous, on relaie, moi je fais comme je peux avec des tas de signes, mais parfois c'est pas suffisant, il faut vraiment aller plus loin et trouver les bons professionnels qui vont traduire les bons mots. Ne pas on sait qu'il y a des pays en guerre et que certains traducteurs ne sont vraiment pas valorisants pour d'autres compatriotes, enfin pas pour leurs compatriotes, mais pour le pays voisin.
Alors les interprètes, là aussi, le CADA a un privilège, c'est qu'il a quelques moyens financiers. Et dans le budget, effectivement, on a une enveloppe qui nous permet de financer des interprètes. Alors, ce financement n'est pas normalement pour faire de l'accompagnement social ou médico-social et ou psychologique. Ce financement est fait pour travailler sur la procédure, mais la procédure administrative. Alors après, bon voilà, après c'est la manière de gérer les fonds pour pouvoir avoir la chance de pouvoir travailler avec des interprètes professionnels sur d'autres aspects que la procédure. Donc on exploite nous les compétences des interprètes à la fois sur la procédure et de temps à autre sur du social et sur du soin et ou sur du psy. Sauf que c'est vrai qu'en parallèle, alors je vais revenir aux interprètes, mais en parallèle, on tente d'orienter vers les personnes vers aussi des cours de français tout au long du séjour. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour des personnes qui sont en CADA puisqu'elles ont un toit et elles ont des ressources qu'on leur verse, ce qui fait qu'elles peuvent retrouver aussi la nécessité de faire des activités occupationnelles. Et l'une de leurs premières demandes, enfin il y a trois demandes principales quand les personnes rentrent en CADA. C'est d'abord la procédure, ensuite c'est l'éducation des enfants, et ensuite c'est la langue française. Et la santé, par ailleurs, ne vient qu'après, qui garde parfois un peu en réserve. Donc c'est vrai qu'on essaye d'accompagner les personnes vers cet apprentissage de la langue française. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, les gens arrivent à se débrouiller. Et pour tout ce qui est l'accompagnement social, je dirais quotidien, la débrouille quotidienne, on n'a pas forcément besoin d'un interprète. Donc on les utilise soit pour faire des points sur la procédure, soit pour faire de temps à autre des recadrages, mais surtout pour faire, quand il y a effectivement des problématiques de soins, on prend une heure d'interprète avec le médecin que l'on finance, mais c'est exceptionnel. Et c'est vraiment pour expliquer la problématique du soin, la prise de médicaments, expliquer le bien fondé de tout ça et expliquer toute la procédure, tout le processus qu'il va y avoir autour du soin en particulier et ou de la procédure administrative au sens large. Après, au quotidien, on considère, c'est vrai que peut-être un peu facilement, que la langue n'est pas un barrage, mais avec cette bouée de secours qui est. Quand il y a besoin de faire une explication précise, on utilise ces interprètes. Après, la difficulté, c'est de trouver des interprètes. Et de trouver des interprètes dans toutes les langues. Et de trouver des interprètes qui sont là physiquement. Parce qu'en fait, sur le territoire national, on arrive à trouver des interprètes qui font ce travail-là par téléphone. Alors, autant par téléphone, il y a certaines choses qu'on arrive à traiter. Mais au bout de trois quarts d'heure, une heure de téléphone, l'outil devient un petit peu moins performant. Mais on arrive quand même à trouver, au moins pour les aspects de procédure et les aspects administratifs. Pour ce qui est du soin, par téléphone, c'est improbable, inefficace, inadéquat. Donc on évite autant que faire se peut de le faire. Donc là, on essaye de travailler à la fois ici sur le réseau local, c'est-à-dire qu'on a pu repérer certaines personnes qui avaient des compétences linguistiques, qui étaient ou qui n'étaient pas interprètes au départ, qui ont accepté de travailler avec nous dans un cadre bien particulier, avec des garde-fous que l'on essaye de mettre. Donc ça au niveau local, et on essaye de partager au niveau au moins régional ces ressources humaines qui peuvent être accessibles. Donc là, c'est vrai qu'il y a 5 CADA sur la région et jusqu'à maintenant, il y avait différentes plateformes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une et il n'y en a bientôt plus du tout. En tout cas, jusqu'à maintenant, on arrivait à travailler aussi avec l'ensemble des structures pour se partager quelque peu, enfin, ou en tout cas faire connaître les ressources que l'on avait sur la région. Mais la difficulté, c'est une difficulté financière que nous, on connaît peut-être moins que des structures plus fragiles que sont, par exemple, les plateformes qui ont moins de moyens financiers que nous pour payer ces interprètes. Donc, il y a vraiment une séparation entre les personnes qui sont en centre, où moi, je dis depuis le début que c'est un privilège, et les personnes qui sont hors centre. Et pour les personnes qui sont hors centre, effectivement, là, il y a un problème à la fois, il y a des moyens, problèmes de moyens financiers, moyens humains et ne serait-ce que matériels, parce que bien souvent, il y a des bureaux assez précaires pour accompagner les personnes. Voilà. Et donc, et alors que dire des personnes qui sont en attente, enfin qui sont en convention Dublin, qui sont en attente d'un retour éventuel vers un illusoire pays européen qui accepterait d'étudier la protection. Alors ceux-là sont encore ils sont avec des papiers tolérés, mais pas pris dans les structures. Et donc pour cela, c'est encore plus complexe. Et en plus, avec un petit peu de ressources maintenant, mais depuis peu. Donc voilà. Mais après, la difficulté qu'on a sur les interprètes, et là, c'est vrai que le réseau AWEL qui est en train de se monter sur La Rochelle et j'espère sur l'ensemble de la région, a ça d'intéressant, c'est qu'elle a pris en compte aussi dans son projet, dès le départ, la problématique des interprètes et de la formation des interprètes et de l'analyse de la pratique aussi pour les interprètes, au bénéfice des interprètes. Parce que ce sont les personnes qui sont au front et c'est vrai que quand c'est une personne francophone, nous, on reçoit effectivement tout ce que la personne a à dire directement et entre quatre yeux. Quand il y a une tierce personne et un interprète, en fait, c'est lui qui ramasse et qui retranscrit déjà. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est déjà un peu adouci. Ce qu'il y a à entendre est déjà un petit peu adouci et ou transformé. Donc là, ça, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce réseau, c'est qu'ils prennent ça en compte. Voilà. Et après, il y a pas suffisamment de formation, etc. Mais en tout cas, il y a une piste de travail pour former au mieux aussi ces ressources.
Merci.
Je voulais juste sur l'interprétariat, faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu observer à Rennes. Donc j'avais fait une recherche sur les structures locales de l'accès aux soins des migrants à Rennes et à Poitiers. Et à Rennes, l'accès aux soins des migrants, elle se fait dans une structure qui dépend du RVH, du réseau Ville-Hôpital. Et donc, elle dépend de financement de la santé publique régionale. Et alors, eux, ils ont monté un projet autour de leur RVH avec plusieurs pôles, donc un pôle migrant, un pôle tuberculose, un pôle VIH et un pôle interprétariat. Et ils ont réussi à monter leur propre outil d'interprétariat parce que de la même façon, ils n'arrivaient plus à dépendre du le service d'interprétariat, je ne sais plus son nom, qui est basé à Paris, qui offre Interservices Migrants. Voilà. Ils n'arrivaient pas non plus à travailler avec ça, donc ils ont développé au niveau local leur propre outil d'interprétariat. Et là, je sais qu'ils sont en train de travailler dur sur une plaquette, justement, pour permettre à la fois aux médecins et aux migrants de se comprendre lors de la première consultation, dès l'arrivée, et pour ensuite permettre un suivi médical avec un interprète ou au moins, enfin, voilà, eux, ils ont cet outil-là. Et je sais qu'ils sont en train de le mettre en commun au niveau de la région Bretagne pour pouvoir travailler avec les associations dans d'autres villes de Bretagne qui ont affaire au public migrant aussi. Voilà.
Si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie. De la soirée avec la conférence de l'exposé d'Anne-Cécile Oyez. Donc les questions ensuite après porteront à la fois sur l'exposé d'Anne-Cécile Oyez et puis éventuellement aussi sur l'exposé de Frédéric Poupard.
Alors donc bonsoir, donc oui, je suis Anne-Cécile Oyez, je travaille à Migrinter, au CNRS ici à Poitiers. Alors moi, je vais partir sur... mes propos vont être complètement en décalage par rapport au tien. Donc moi, je vais vous parler plus précisément de mes travaux sur les circulations de savoir et de santé et sur les réseaux transnationaux, en particulier à propos des médecines non européennes, donc toutes les médecines que les migrants peuvent transférer avec eux au cours de leur migration. Donc c'est toute une réflexion sur l'étude des migrations, des changements sociaux que ces migrations induisent et des mobilités qui en découlent, en particulier dans le domaine de la santé et des soins. Donc je vous propose d'aller explorer la question de la santé, la façon dont elle est perçue et la façon dont les soins sont pratiqués chez les migrants. Et en particulier sur les changements qui interviennent dans le cadre des médecines non européennes, que j'appellerai traditionnelles un petit peu plus tard, mais j'apporterai aussi des nuances à cette idée de médecine traditionnelle. Donc dans la migration, des individus utilisent et produisent des savoirs et des pratiques de soins en effectuant des négociations entre le soin tel qu'il est proposé dans le système de santé publique du pays d'accueil et le soin tel qu'il est transféré depuis le pays d'origine. Donc, on se penchera ce soir sur les diverses modalités d'adaptation et d'ajustement des pratiques de soins chez les migrants, qu'ils soient patients, c'est-à-dire consommateurs de soins, ou qu'ils soient praticiens, pourvoyeurs de soins. Donc, j'interrogerai d'un côté les processus politiques, sociaux et culturels qui encadrent et qui conditionnent les pratiques de soins, et d'un autre côté, j'interrogerai les transferts de ces pratiques médicales non européennes en partant donc des pratiques des populations migrantes. Donc, je ne parlerai pas de maladies ou de soins comme peuvent le faire les anthropologues. Je parlerai plutôt d'accès aux soins, de parcours de soins et des choix raisonnés qui sont établis dans les démarches de santé des individus. Donc je parlerai en particulier des médecines qui sont dites traditionnelles, la façon dont elles sont véhiculées, la façon dont elles sont mises en pratique dans les sociétés d'accueil par les migrants. Alors donc il sera question de culture, et pour parler de culture au sens anthropologique du terme, je tiens à préciser un petit peu la définition, la culture pouvant être souvent un concept assez fourre-tout. Donc la culture, très, très globalement, c'est une façon d'être au monde. C'est un système dynamique qui est tout le temps en évolution, qui n'est pas figé. On a souvent l'habitude de mettre la culture dans des cadres très figés. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. La culture est toujours porteuse de sous-cultures en fonction de différents facteurs, que ce soit les écarts générationnels, le sexe, l'habitat, la condition sociale. Et surtout, la culture est un prétexte souvent pour se positionner les uns par rapport aux autres. La culture en lien avec le système de santé, c'est une problématique encore différente. François Laplantine souligne que le système de santé est toujours produit d'une culture et qu'il dépend de l'évolution des connaissances. Et que les systèmes de santé sont toujours marqués par une conception que l'homme entretient du rapport que l'homme entretient aux autres, à son environnement et éventuellement à des réalités invisibles qui rentrent dans les grands systèmes de représentation de la santé. Alors, avant d'entamer le propos en soi, je voulais faire quelques précisions sur ce lien entre santé et culture. Qui est ancien dans les sciences sociales, mais qui est aussi problématique. Alors, à partir des années 1970 en France, avec l'arrivée et l'installation surtout de populations immigrées aux cultures d'origine différente, les gouvernements ont commencé à réfléchir sur la façon dont on allait pouvoir, pour les intégrer, faire adhérer ces migrants à des bonnes pratiques dans le système de santé publique. Donc l'idée du gouvernement a été des différents gouvernements de cette époque a été de faire appel à des spécialistes de ces dites cultures d'origine et de ces dits systèmes de santé d'origine, en gros les anthropologues qui avaient un savoir sur les cultures des pays du Sud. Donc l'idée était de convoquer tout ce savoir anthropologique pour comprendre les pratiques des immigrés et pour prendre la mesure de tout ce qu'ils savaient pour pouvoir adapter leurs pratiques de ces personnes aux normes qui étaient en vigueur dans le pays d'accueil, en l'occurrence la France. Donc derrière tout cela, il y avait l'idée que la culture d'origine pourrait être un obstacle à ces bonnes pratiques de santé, donc les pratiques normées et définies dans le système de santé publique, et que éventuellement certaines pathologies, et ça c'est resté jusqu'à très, très longtemps et même encore maintenant, certaines pathologies pourraient être expliquées par la culture des immigrés, que les immigrés seraient plus exposés à certaines pathologies de par leur culture. Alors on témoigne toutes les études sur le saturnisme et le sida qui ont... Enfin, ça a pris vraiment très 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 longtemps pour qu'on puisse sortir de ce schéma d'explication culturaliste de ces maladies. N'oublions pas aussi que la culture dans la santé, elle existe aussi chez nous. L'autre jour, j'ai écouté un ethnologue qui parlait justement de ça, de culture et de santé, et qui nous racontait quand il va en Afrique, il dit « Moi, je connais une ethnie où les femmes, elles y accouchent en écoutant de la musique, et où les femmes aussi, elles accouchent en piscine, etc. Et » les gens les regardaient avec des grands yeux en disant « Mais voilà, mais en fait, c'est la culture française aujourd'hui, plus qu'une mode. En fait, on a une culture de la santé publique et une culture des façons de se soigner ou d'accoucher ou d'attendre un enfant, etc. etc. » Donc comme le disent Didier Fassin et Jean-Pierre Dauzon dans leur ouvrage Critique de la santé publique, la question culturelle, elle émerge lorsque la santé publique rencontre ses publics. Ces publics étant des personnes issues de sociétés éloignées, des groupes immigrés, mais aussi des milieux sociaux pauvres qui peuvent avoir des pratiques de santé extrêmement différentes de la norme. Donc le culturel, le lien de la santé à la culture, il est pas à nier. Il est d'ailleurs toujours porté et légitimé dans certaines approches que l'on voit dans la recherche. Il y a la revue Migration Santé que vous connaissez peut-être, donc qui propose tout un ensemble de travaux sur le lien entre santé et culture. Il y a l'approche de l'ethnopsychiatrie qui réfléchit beaucoup aussi sur la question de la culture d'origine. Il y a les positions de professeurs telles que celles d'Antoine Lazarus et son équipe de Paris 13 à Bobigny qui réfléchissent sur les défis posés par les populations migrantes au sein des structures de santé, sur l'introduction de l'interculturel dans le système de soins français, donc un système universel, mais qui pourrait éventuellement aussi être sensible à toutes les diversités, que ce soit les diversités des soignants, diversité des cultures des soignants, mais aussi des patients. Cette équipe aussi, là, à Paris 13, elle essaye de repenser l'adaptation des structures sanitaires et la formation des personnels de santé en lien avec les publics migrants. Donc leur idée, c'est de pouvoir véhiculer des savoirs et des attitudes vis-à-vis de la sensibilité culturelle, de travailler avec les praticiens sur l'influence des préjugés dans la pratique, dans les pratiques de soins, de pouvoir identifier les phénomènes de rejet de patients issus d'une minorité ethnique. Donc en gros, ils sont pour un développement des savoir-faire interculturels chez les professionnels de santé, et ils sont pour que ce savoir-faire soit institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il soit enseigné dans les universités de médecine. Donc le culturel dans la santé, c'est une approche intéressante, mais il faut aussi en souligner les limites et en faire une critique d'une approche qui serait trop centrée sur le culturel. Le risque est de faire du culturel un outil dans la santé, au risque d'ethniciser le patient et au risque de réduire, enfin de faire du réductionnisme, c'est-à-dire de centrer son diagnostic sur le patient et non pas sur le groupe, et non pas sur le groupe dans la société qui l'accueille. Donc voilà, les malades ne sont pas coupés non plus du monde social. La maladie, elle prend place dans un contexte dans lequel elle prend sens. Et se soigner par la biomédecine n'exclut pas non plus des recours à des pratiques autres, type pratiques sorcellaires ou autres pratiques issues de cette fameuse culture d'origine. Voilà, et puis ces analyses en termes de facteurs culturels, résistances culturelles ou obstacles culturels ont tendance à mettre en cause les comportements des personnes et à les rendre responsables aussi de leur mauvais état de santé. La question de la santé et de la culture, elle pose aussi des problèmes politiques, enfin une question politique. Elle a tendance à faire enfermer les migrants dans des cadres culturels, à considérer ces cadres culturels comme figés, et au risque d'occulter les conditions de vie et les expériences douloureuses que les personnes peuvent vivre dans la société, enfin dans le contexte dans lequel elles vivent. Et ce lien entre santé et culture fait aussi l'objet d'une mise en cause épistémologique, hein, chez les anthropologues en particulier, mais en sciences sociales en général. La question de système de santé, de représentation de la santé et des pratiques de soins ne sont pas liées aussi mécaniquement que ça en a l'air. Il existe en effet donc des contextes particuliers, hein, qui créent ces liens entre représentation, pratique et pratique de soins. Donc, il y a ces approches culturelles. À côté de ça, il y a les chercheurs qui en font une critique très forte. Et parmi ceux qui en font une critique très forte, ils soulignent l'importance des problèmes sociaux. Enfin, ils se centrent sur l'approche sociale les problèmes sociaux vécus par les migrants qui pourraient avoir une répercussion sur leur santé. Mais de la même façon qu'on ne peut pas tout réduire au culturel, on ne peut pas non plus tout réduire au social, dans la mesure où les problèmes de santé ne sont pas afférents, les problèmes de santé liés aux inégalités sociales ne sont pas afférents que aux populations migrantes, mais aux personnes en général, que ces problèmes sociaux ne sont pas toujours installés de façon pérenne également, qu'on peut éventuellement s'en extraire, et que donc même si les effets induits de la pauvreté et de l'exclusion sont plus fréquents chez les migrants, donc un ensemble d'études le montre, il est aussi réducteur de voir cette santé des migrants conditionnée uniquement par cela. Donc certains chercheurs soulignent que, par exemple, il est possible d'identifier un ensemble de facteurs qui favorisent l'adaptation des migrants à leur nouvel environnement, c'est-à-dire que les migrants auraient des avantages tels que connaissance de plusieurs langues différentes. Ils peuvent avoir également des expériences positives, antémigratoires ou post-migratoires, plutôt positives. Certains peuvent avoir connu des bonnes conditions d'émigration. Certains peuvent bénéficier d'un soutien familial et communautaire qui leur permettrait de développer des résistances, des ressources et des stratégies qu'ils pourraient activer différemment et qui pourraient également leur servir de reconnaissance auprès de la société d'accueil. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, hein, dans une approche un peu constructiviste qu'il faut prendre en compte, hein, ne pas rentrer dans la santé des migrants par un bloc en particulier, mais bien prendre conscience qu'il y a vraiment tout un tas d'événements qui sont issus donc du parcours individuel et des conditions sociales de la migration. Alors, maintenant que j'ai fait ces précisions, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par un état de l'art synthétique, hein, des travaux universitaires sur la santé des migrants, donc qui sera un point de départ pour proposer une position, hein, à la croisée de ces domaines épidémiologiques, politiques, culturels et sociaux qui sous-tendent la question. Et ensuite, je ferai un panorama de la question des migrants en lien avec la santé à l'aune des médecines traditionnelles et de l'importation des médecines des pratiques médicales non européennes. Donc, qu'en est-il dans la recherche des pratiques de la question des migrations et de la santé ? Donc, globalement, la littérature scientifique internationale sur les déterminants de la santé dans le cadre des migrations internationales et dans le cadre de la mondialisation offre trois entrées. Une première entrée sur les effets de la mobilité sur la santé des migrants. Une autre partie des travaux se centre sur les approches par les politiques de santé, leurs effets induits sur la santé des migrants. Et une troisième approche donc, privilégie les approches sociales et interculturelles. Donc, les travaux sur les effets de la mobilité, il y a une partie de ces travaux qui se penche sur le parcours migratoire, donc du départ jusqu'à l'arrivée. Et c'est les effets de ce parcours sur l'état de santé des migrants à l'arrivée. Et une autre partie analyse l'évolution de la santé et des pratiques de soins pendant le séjour. Donc globalement, on peut repérer deux niveaux d'analyse de ces liens entre santé et migration. Soit les migrants apparaissent, pour le dire très vite, comme une population à risque, hein, personnes mobiles, donc pathologie mobile. Alors ces idées répondent plus à une construction et combinent deux types de risques, risque pour les migrants et risque pour les autres, en fait, pour ceux qui sont à leur contact. Et il y a un deuxième niveau d'analyse qu'on appelle le Healthy Migrant Effect en anglais, donc c'est l'effet du migrant en bonne santé. Qui soutient l'idée que les candidats à la migration sont de toute façon des personnes en bonne santé à la base, que pour être candidat à la migration, il faut être en bonne santé. Donc la plupart des migrants qui arrivent dans le pays d'accueil sont globalement en meilleur état de santé que la population générale, mais que leur état de santé commence à se détériorer au fur et à mesure des conditions de vie dans le pays d'accueil, en lien donc avec les inégalités sociales et les discriminations. La deuxième grande porte d'entrée donc sur les migrations et la santé sont les approches par les politiques de santé. Donc j'ai pu citer tout à l'heure Didier Fassin, qui est un peu notre tête pensante dans ce domaine, mais Estelle Kern, par exemple, qui viendra le 1er décembre, travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc tous ces ensembles, bon, il y a plein d'autres personnes, hein, mais là, c'est les deux seules que je citerai ce soir, mais... Donc ces travaux par les politiques de santé, elles étudient les dispositifs pour la santé des migrants dans les politiques publiques, elles étudient leurs évolutions, les enjeux idéologiques qu'ils contiennent. Ils dénoncent le poids des discriminations dans l'accès aux soins des migrants. Et ils peuvent aussi, donc par les politiques de santé, on peut aussi faire un ensemble de travaux sur la régulation de l'immigration par le travail et notamment l'arrivée des professionnels de santé étrangers. Et la troisième grande porte d'entrée sont les approches sociales et interculturelles, donc des approches qui sont centrées autour de l'analyse des répercussions sociales et culturelles des politiques de santé et des politiques d'immigration au niveau individuel. Donc ce sont des travaux qui se penchent sur les déterminants de santé des populations migrantes en incluant tout le poids des représentations sociales et des stigmatisations dont font l'objet les migrants dans leur état de santé. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de travailler sur les conditions de la migration ou les conditions de l'entrée, sont des travaux qui s'intéressent à l'impact des représentations sociales et des catégories, et tout particulièrement sur les personnes les plus vulnérables, comme les réfugiés ou les minorités. Enfin, les personnes définies comme minoritaires. Sont des travaux également qui explorent des domaines élargis de la santé et qui s'interrogent sur l'utilisation de la langue dominante pour l'intégration sociale, pour l'accès aux soins. Ils s'interrogent également sur l'association entre mobilité, instabilité, qualité du logement, expérience des changements urbains, enfin, c'est-à-dire tous ces grands changements de rénovation, d'urbanisme et la façon dont ces gens en fait, sont souvent mis à la porte pour questions de rénovation urbaine. Et des travaux également qui s'interrogent sur les impacts de la culture des professionnels de santé sur leurs pratiques et sur les représentations qu'ils peuvent avoir des migrants, des patients migrants. Donc voilà pour ce panorama synthétique. Alors, comme vous l'aurez compris, hein, pour le chercheur, c'est difficile de parler de ce couple migration et santé sans en mentionner les nuances. Notons d'une part donc, qu'il y ait la santé des migrants comme un gros bloc n'existe pas en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien explicatif entre origine et santé, mais qu'il s'agit en fait d'une construction qui mêle à la fois les déterminants sociaux de la santé, les impacts des politiques d'immigration et des politiques de santé à destination des migrants, et qui mêle également les pratiques de soins des migrants eux-mêmes et des professionnels de santé qui travaillent à leur contact. Donc la question de la santé des migrants, c'est vraiment ce grand tout. Ce à quoi j'ajoute les pratiques de soins, c'est-à-dire que parallèlement à toutes ces études hein, épidémiologiques, structurelles, pour le dire vite, de la santé des migrants, on ne peut faire l'économie de la réflexion sur le soin, c'est-à-dire tout ce que les populations projettent dans leur démarche de santé. Donc si l'on considère que les migrants, lors de leur mobilité, transfèrent avec eux des savoirs relatifs à la santé, ils ne dépendent pas uniquement du domaine biomédical, mais d'une somme d'autres pratiques médicales au sens vraiment très large, relevant du pluralisme médical. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce que les individus transfèrent au cours de leur trajectoire migratoire, figurent en particulier toutes ces pratiques qu'on désigne comme traditionnelles, donc en prenant bien sûr toute la distance qu'il faut quand on parle de tradition, hein. Ces pratiques traditionnelles, souvent, elles sont construites ou reconstruites, réinventées et réinventées en permanence dans un contexte qui est très contemporain, qui est lié au parcours migratoire de la personne et qui est lié aussi aux dimensions collectives de la migration. Donc j'y reviendrai tout à l'heure dans les exemples que je développerai, hein. Mais donc ces pratiques traditionnelles peuvent vraiment prendre sens dans la migration. Et ces traditions médicales, donc, elles sont surtout issues de reconstructions de savoirs très contemporains, formés au contact de différents systèmes médicaux. Et il faut savoir aussi que ces médecines, elles sont aujourd'hui de plus en plus normées et régulées au niveau international par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a fixé une définition, qui en a fixé une liste au niveau mondial et qui élabore aujourd'hui des stratégies pour favoriser leur développement, et en particulier dans les pays du Sud, alors pour tout un tas de raisons. Et la première raison qui est mise en avant, c'est pour combler les déficits en structure de soins dans les pays du Sud. Donc même si cette question des pratiques traditionnelles est importante, hein, d'après moi, dans les pratiques de soins des migrants, et qu'on vient de ne pas essentialiser la relation des migrants aux pratiques de santé traditionnelles, c'est-à-dire que tous les ressortissants d'une même communauté, tous les groupes de migrants n'ont pas le même accès à ces médecines, qu'au sein d'un même groupe, le recours à ces médecines traditionnelles dépend de plein de choses, hein, notamment du niveau d'éducation des personnes, conjugué aux valeurs qui sont associées aux différents systèmes médicaux auxquels ils ont affaire, et que, également, entre groupes de migrants, l'accès à des savoirs médicaux dits traditionnels dépend à la fois de leur existence dans le pays d'origine et de leur systématisation dans le pays d'origine. Je pense en particulier au cas de l'Inde ou de la Chine, dont les ministères, dans ces deux pays, les ministères de la santé publique ont un département spécial médecine traditionnelle. Donc, c'est-à-dire que ces médecines-là, elles sont enseignées dans les universités de médecine et ont choisi entre ces différents cursus. Donc, elles sont institutionnalisées, elles existent dans des pays comme l'Afghanistan aujourd'hui. Les exilés afghans ne vont pas forcément pouvoir convoquer tous ces savoirs traditionnels. Et également, alors, les pratiques traditionnelles, c'est assez souvent un fourre-tout. Donc il faut se méfier aussi quand on en parle. On y trouve à la fois donc les pratiques de santé en soi, telles qu'elles sont en Chine, telles qu'elles sont en Inde, c'est-à-dire bien normées, institutionnalisées. Elles sont trouvables dans des textes millénaires, etc., etc. Mais les pratiques traditionnelles, elles peuvent aussi englober des pratiques quotidiennes de promotion de santé, de promotion du bien-être, comme des pratiques de consommation alimentaire, des pratiques d'observance religieuse, qui s'éloignent de la santé, mais qui en même temps rentrent dans le cadre de la fabrication de pratiques de santé physique, sociale et symbolique en même temps. Une dernière précision aussi, lorsqu'un système de santé traditionnel existe, en général, il est diffusé dans la communauté, entre les individus, via différents supports, et il est également constitué en savoir collectif, appartenant donc à ce groupe, et circulant entre pays d'origine et les différents pays d'accueil où sont établies ces communautés, grâce à des réseaux transnationaux qui favorisent les déplacements de malades, les déplacements de praticiens, les circulations de médicaments aussi éventuellement. Donc il s'agit de savoirs et de pratiques de santé qui peuvent être éventuellement considérées comme des ressources dans la migration. Voilà, donc je passe à quelques exemples, hein, de ces pratiques de soins dites traditionnelles. Les exemples que j'ai choisi là de vous présenter, alors les études qui ont été faites en Amérique du Nord et en Australie. Alors on se déplace là, on sort complètement de chez nous. Il faut savoir que c'est assez simple en fait d'avoir des études sur les pratiques ethniques de santé dans ces pays-là, parce que l'appartenance ethnique, les pratiques communautaires, le différentialisme aussi sont admis dans les systèmes de santé publique et dans les pratiques de soins en général. Donc on trouvera beaucoup plus de travaux là-dessus chez les anthropologues ou les géographes nord-américains que chez nous. Donc c'est dans ces pays-là, donc Amérique du Nord, Australie, il est possible d'avoir et d'analyser des recours qui sont construits autour de cette appartenance ethnique, donc contrairement au système français, hein, où prime l'universalisme. Donc tous les travaux là que je vais vous présenter ont pu mettre en valeur différentes projections qui expliquent le recours aux médecines traditionnelles chez les migrants. Donc c'est une littérature qui est concernée par la façon dont les migrants utilisent ces médecines traditionnelles, et c'est intéressant de voir en fait que l'analyse de ces médecines, enfin du recours aux médecines traditionnelles, elle est aussi entre plusieurs positions. Alors, est-ce qu'on doit les interpréter en termes de conservatisme? Est-ce que c'est des formes de conservatisme chez les populations migrantes? Est-ce que ce sont des formes de consumérisme, parce qu'il y a aussi un marché de la santé traditionnelle? Ou est-ce qu'on les étudie comme des formes de négociation identitaire au sein de la communauté, autour de la pratique de la santé et des soins? Donc, toutes ces positions révèlent à la fois des modes d'organisation diasporiques et diverses logiques de recours aux praticiens. Alors, sur l'organisation diasporique, il y a une étude qui a été menée par Isabelle Dick et Perrine Dossa au Canada, auprès des migrants d'origine indienne et d'origine afghane. Alors, elles ont souligné que ce recours aux médecines traditionnelles peut s'inscrire dans le cadre de la production transnationale de l'identité, dans le cadre des réseaux diasporiques. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Donc, leur étude, elle souligne que les pratiques traditionnelles de santé, elles sont construites en grande partie dans la migration, c'est-à-dire que lorsque les personnes ont migré, et plus particulièrement, elles sont construites dans le mode de vie diasporique, c'est-à-dire dans la façon dont les personnes vivent ensemble dans le pays d'accueil, et ceci en réponse à la catégorisation qui est imposée par les politiques d'immigration. Et en même temps, ce recours aux médecines traditionnelles, elle dépend des expériences individuelles de la migration. Donc, oui. Diasporique, pardon. Oui, diasporique, l'organisation diasporique, c'est comment le faire très simplement, Véronique, je te demanderai. Oui, issu de la diaspora. Donc, diaspora, en fait, c'est la on va parler en termes de dissémination, mais je sais, c'est pas une très bonne. Ce sont les réseaux de migrants, en fait, qui sont installés dans différents pays. Donc. Donc, par exemple, quand on parle de diaspora chinoise, on parle de l'organisation de tous les Chinois immigrés dans le monde et la façon dont ils sont en lien et en communication et, voilà, avec le pays d'origine et aussi entre Chinois de France et Chinois d'Angleterre, par exemple. Quoi. Voilà. Excuse-moi. Elle montre deux choses, en fait, leur étude. La première, c'est que les catégories... ces personnes afghanes ou indiennes, lorsqu'elles arrivent au Canada, donc les femmes en particulier, qui migrent, elles rentrent dans des catégories d'immigration qui s'appellent family reunification ou humanitarian, qui sont des catégories de regroupement familial comme on connaît ici. Or, ces catégories, elles ne donnent aucun rôle économique aux migrants. Et les migrants qui les composent sont majoritairement des femmes. Donc cette absence de rôle économique suscite des comportements quotidiens qui confinent les femmes à un rôle culturel, et particulièrement ce rôle culturel est pris dans le domaine du maintien de la santé et du bien-être de la famille au sein de l'espace domestique. Donc c'est un rôle comme ça qui est construit et qui est pris dans la migration, ce rôle des femmes dans la santé du foyer. Mais en même temps, l'argumentation de cette catégorisation politique, elle n'est pas le seul facteur explicatif de ces comportements, parce que d'une part, les analyses qu'elles ont pu faire ces auteurs des expériences des migrants indiquent aussi que le vécu de la rupture avec le foyer, donc dans le pays d'origine, est à l'origine de négociations entre différents savoirs de santé que connaissent ou auxquels sont confrontés ces migrantes, donc savoir du pays d'origine et savoir dans la société d'accueil. Et que d'autre part, ces personnes en fait, qui disposent d'un savoir issu de pratiques traditionnelles les considèrent en fait, comme faisant partie de leur culture. Ces médecines traditionnelles, elles sont aussi, quand on est en migration, facilement accessibles au sein de la communauté, c'est-à-dire que les produits, les médicaments ou les plantes qui peuvent intervenir dans les pratiques traditionnelles de santé, elles sont bon marché, elles sont immédiatement disponibles au sein de la communauté. Et voilà, donc ce sont des approches qui sont chargées de valeurs identifiables, qui sont en plus, pour ces migrantes, bien plus identifiables que les valeurs qui sont véhiculées dans le système de santé publique des pays d'accueil. Donc, au final, pratiquer les médecines traditionnelles en migration leur donne une existence et une légitimité sociale. Donc, par ces aspects identitaires, le recours et la promotion de la médecine traditionnelle, elle peut devenir aussi, chez les migrants, une revendication pour la liberté du mode de prise en charge sanitaire et éventuellement, on le verra un petit peu plus loin, pour l'extension de, enfin, pour la diffusion de ces savoirs auprès des populations locales qui sont également, donc une population française ou canadienne, urbaine, qui est de plus en plus demandeuse de soins parallèles, alternatifs, etc., qu'ils peuvent trouver chez les migrants. Donc ça, c'était pour le côté organisation diasporique et recours aux médecines traditionnelles. Sur le volet santé et recours aux praticiens, alors, chez les pratiques des migrants, on retrouve tout un tas de pratiques très, très intéressantes. Alors qu'il s'agisse de recours à des praticiens de la biomédecine issus de la diaspora ou de praticiens de la médecine traditionnelle qui seraient aussi issus de la diaspora, on voit bien que les pratiques de soins des populations migrantes, elles dépendent tout le temps des ajustements entre culture, lien social, dépassement du modèle biomédical proposé et pluralisme médical. Donc il y a une étude qui a été menée par des géographes de la santé à Toronto sur les pratiques de soins dans la communauté chinoise et la façon dont les Chinois de Toronto allaient visiter des médecins. Donc là, je parle de médecins, donc de la biomédecine, hein, des médecins généralistes. Alors, dans l'étude qu'ils ont menée, Rosenberg et ses collègues, donc ils ont essayé de décrypter ces parcours. Alors, ils se sont rendus compte que 87,7% des personnes ressortissantes de la communauté chinoise avaient un médecin de famille. Donc biomédecine, hein, je ne parle pas du tout de médecine traditionnelle. Donc ça fait, voilà, 87%, c'est beaucoup de personnes donc, qui ont ce médecin de famille. Mais parmi ces 87 personnes, il y en a 96% qui déclarent que ce médecin est d'origine ethnique chinoise. Donc en gros, la très grosse proportion des Chinois choisit d'aller chez un médecin d'origine chinoise. Et parmi ces personnes, 90% des patients communiquent avec ce médecin dans une langue de Chine, que ce soit le mandarin ou le cantonais. Donc, dans les parcours de soins, dans les pratiques de soins et de choix des médecins, les auteurs ont pu souligner que les médecins d'origine chinoise, alors ils peuvent être utilisés dans un premier temps comme une porte d'entrée pour le système de soins en général, c'est-à-dire que quand on est un immigré chinois, on ira chez un médecin chinois dans un premier temps pour se faire expliquer le système de santé et ensuite pour pouvoir aller voir d'autres praticiens. Donc ça, c'est un type de comportement, mais en fait, surtout, la recherche de médecins d'origine chinoise s'accompagne d'une recherche de dialogue, donc dans la même langue, mais aussi autour du même langage culturel de la santé. C'est-à-dire que la consultation dans ces cabinets médicaux de médecins chinois, elle inclut des échanges et des références au chaud et au froid, au yin et au yang, au qi, donc cette énergie qui circulerait dans le corps, donc qui est portée par la médecine traditionnelle chinoise. Et dans la description des symptômes, le médecin fait attention à cette façon, en fait, de présenter la maladie ou le problème de santé, le dérèglement. Et le patient, en fait, n'hésite pas à parler de sa santé en ces termes-là, même s'il va chez le médecin généraliste. Et également aussi, alors la recherche de médecins, donc dans ce qu'ils ont pu voir dans ces parcours de soins, elle s'accompagne de stratégies autour de l'adéquation entre différents systèmes de médecine. Alors en gros, les ressortissants de la communauté chinoise, alors ils auraient le choix entre aller voir un médecin immigré récemment ou aller voir un médecin immigré depuis plus longtemps. La stratégie étant que si on va voir un médecin qui a immigré récemment, on sera en présence d'un médecin qui connaîtra bien la médecine traditionnelle chinoise parce qu'il aura été formé éventuellement dans son pays d'origine, enfin en Chine, et qu'il aura été à contact de cette médecine traditionnelle suffisamment longtemps. Et donc, on pourra, lors de la consultation, bénéficier un petit peu de ces deux modes de diagnostic ou en tout cas d'échange autour de la maladie et de la santé. Alors que si on choisira un médecin qui a immigré depuis plus longtemps, alors ce sera peut-être un médecin qui connaîtra moins bien la médecine traditionnelle, mais en tout cas, ce sera un médecin qui connaîtra, qui aura été formé par exemple dans une université canadienne à la biomédecine, et ce sera un médecin qui pourra mixer langage, donc parler dans une langue chinoise, mais aussi mixer quelques bribes de culture de la santé. Et également, ils ont pu souligner que les visites chez les médecins, souvent, révèlent des connexions avec les médecins avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que des patients dans ces cabinets ont pu être aiguillés vers des spécialistes utilisant des traitements traditionnels relevant de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'analyse de tous ces comportements révèle donc que les connexions entre médecins et médecine reflètent la diversité des pratiques de soins à la fois chez les patients et à la fois chez les praticiens immigrés. Et à côté de ces recours donc plutôt formels, parce que là donc ces chercheurs ont étudié le recours chez des médecins généralistes installés en cabinet, mais ils soulignent également qu'il existe toute une série de stratégies individuelles consistant à se procurer des médicaments directement en Chine, qu'il s'agisse d'herbes utilisées dans les préparations de médecine traditionnelle ou qu'il s'agisse d'antibiotiques génériques également qui seraient produits en Chine et qui, chez certains patients, sont plus légitimes, sont plus sûrs parce qu'on connaît mieux la provenance du médicament. Voilà, c'est un médicament générique chinois et donc on projette dans ce médicament plus de valeur symbolique en fait dans le traitement de la maladie. Donc, dans ces logiques dites ethniques, les parcours de soins ne sont pas guidés par des logiques de proximité physique, géographique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chez le médecin le plus près de chez soi, mais ces personnes sont guidées par des proximités culturelles et donc font donc vraiment des choix raisonnés par rapport à ce qu'ils cherchent et à la façon dont ils veulent se soigner et dialoguer avec le médecin. La question des praticiens, là, cette fois-ci, en migration, qui sont issus de la médecine traditionnelle, souligne d'autres caractéristiques importantes dans les pratiques de soins. Donc là, je reprendrai une étude qui a été menée par des anthropologues de la santé en Australie. Et alors, eux, ils se sont intéressés à la médecine traditionnelle coréenne et aux immigrés coréens. Ils ont pu souligner qu'avant l'arrivée des praticiens de la médecine traditionnelle coréenne à Sydney, les Coréens de Sydney allaient consulter des médecins d'origine indienne, des médecins d'origine chinoise, d'origine égyptienne également, dans leur démarche vers les pratiques traditionnelles. Donc, peu importe en fait l'origine de la médecine, ce qui était important, c'est d'avoir un accès à une médecine traditionnelle, donc c'est-à-dire qu'il y aurait qu'il soit un grand système de représentation de la santé, qu'il ne soit pas le système biomédical du pays d'accueil. Et à partir, donc ça c'était la situation jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, on commençait à migrer des médecins de la médecine traditionnelle coréenne à Sydney. Donc ces médecins se sont installés à Sydney. Donc on se dit aubaine pour les ressortissants coréens qui vont enfin avoir leur médecin traditionnel. En fait, la réalité était bien différente parce que ces ressortissants coréens qui étaient installés depuis longtemps en Australie et qui cherchaient un médecin traditionnel coréen, ils se sont retrouvés confrontés à un important décalage entre leurs attentes et la réalité. En fait, ces médecins qui sont arrivés dans les années 2000 de Corée, ils disposaient d'un savoir médical qui était très très éloigné des traditions auxquelles les migrants coréens s'attendaient. Dans la mesure où ces médecins ont été formés à une médecine traditionnelle, largement influencé par les normes biomédicales et largement influencé en fait par les normes de l'OMS qui ont justement régulé la façon dont on pratiquait et on se formait à la médecine traditionnelle. Malgré tout, ces médecins ont le titre de médecins traditionnels, de tradipraticiens, comme les appellent ça c'est la dénomination de l'OMS, tradipraticiens. Alors donc, ils se prévalent d'une méthode dite naturelle, sans effet secondaire, plus proche de la personne que la biomédecine qui est dite atomisante, mais en fait, leur pratique correspond vraiment à ce dont je parlais au début, c'est-à-dire la reconstruction des pratiques traditionnelles. Et en fait, ces médecines traditionnelles, la façon de pratiquer ces médecines traditionnelles, elle répond en fait plus aux attentes de la population locale australienne qu'à celle des patients immigrés. Donc ces médecins migrants deviennent importateurs de médecine traditionnelle, mais à destination des populations australiennes, donc avec un discours qui rentre beaucoup plus dans leurs normes que celle des normes des immigrés coréens. Donc tout ce phénomène accompagne les transformations sociales vis-à-vis de la médecine dominante et résulte de l'influence croissante des médecines traditionnelles dans les pays d'immigration, enfin les pays occidentaux. Donc ces processus, ils s'inscrivent à la fois dans les réseaux transnationaux de patients et de praticiens des médecines traditionnelles, donc qui organisent les organisations diasporiques pour faire circuler leur savoir. Et tout ça s'inscrit en même temps dans ce qu'on appelle le capitalisme médical global, qui marchandise un petit peu les savoirs, les techniques, et qui rend tout ce qui est de l'ordre de la médecine traditionnelle accessible sur un marché de la santé globale. Pour terminer, je reviendrai en France pour traiter de la question des pratiques totalement alternatives qui sont liées aux pratiques de migrants ou de praticiens immigrés. Et quand je dis totalement alternatives, je parle des pratiques qui n'entrent dans aucune catégorie, dans aucune institution, qui sont bien trop en marge des normes thérapeutiques en vigueur. Donc dans ce totalement alternatif, on trouve les nouveaux mouvements religieux qui brassent très très large dans le domaine de la santé, que ce soit les églises évangélistes, les religions inspirées de l'hindouisme ou du bouddhisme, ou que ce soit les pratiques de l'occultisme en général. Alors ce sont des pratiques qui ne sont pas en lien directement avec la santé, parce que ce serait illégal, en fait ce serait une pratique illégale, mais ce sont des pratiques qui traitent de problématiques vaguement liées à la santé, mais de façon détournée. Donc pour en fait citer un exemple, je reprendrai je crois que son prénom c'est Liliane Kuzinski dans son ouvrage sur les marabouts africains à Paris. C'est Liliane, je ne sais pas si tu... Donc elle a travaillé sur les marabouts africains à Paris. Alors ces marabouts africains, donc on les connaît bien, ils sont visibles à travers leurs tracts, les petites annonces qu'ils disséminent un petit peu partout dans les boîtes à lettres, dans les annonces des quotidiens. Et en fait elle a fait une étude sur ces pratiques, ces praticiens-là, qui ne sont pas non plus en dehors des lois, parce qu'ils fondent leur légitimité sur le respect du droit en vigueur en France. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer de front dans la santé, mais ils vont parler de façon détournée de problèmes psychiques de la vie quotidienne, enfin des répercussions psychiques des problèmes de la vie quotidienne. Donc elle, dans son étude, elle a pu voir que les marabouts ont en fait une clientèle d'origine multiculturelle. Donc même s'ils étaient, la plupart d'entre eux à Paris sont sénégalais, leurs pratiques qui sont basées sur des rituels magico-religieux, donc qui sont empruntés à plusieurs cultures et à différentes sources du patrimoine ouest-africain, donc elles visent à traiter tous ces troubles psychiques, physiques, liés au malheur, à l'infortune, etc. Et donc leur clientèle multiculturelle est constituée d'Africains de l'Ouest principalement, d'Antillais, de Portugais, de Maghrébins, mais aussi de Français qui viennent les consulter. Alors, on les consulte, ces marabouts, dans la mesure où on leur reconnaît des racines savantes valorisées, très valorisées, même s'ils sont, ils sont très médiatisés, mais on parle pas d'eux en même, on parle d'eux pas tout à fait en même terme que la médecine asiatique, voilà. Mais bon, ils sont quand même prisés. Et tout particulièrement dans les grandes villes, enfin tout particulièrement à Paris, où l'on a à la fois les communautés de migrants qui sont susceptibles de vouloir les consulter, et en même temps on a personnes vivant en milieu urbain qui participent à l'émergence des médecines traditionnelles et qui en constituent une clientèle potentielle. Donc ces marabouts, ils sont installés dans les quartiers où se côtoient des multiples nationalités. Et leur clientèle provient de ce quartier, mais aussi provient de personnes installées dans d'autres grandes villes françaises qui font le déplacement pour aller voir, alors pour garder le côté un peu anonyme, intime de la consultation. Donc des personnes qui viennent de loin, mais également des personnes d'origine africaine, non français, non installées en France, qui sont en voyage. Donc elle cite par exemple l'exemple d'un Africain américain qui est en voyage à Paris et qui va en profiter pour aller consulter un marabout. Donc ces marabouts, ils attirent à la fois les populations qui sont imprégnées par les cultures qui utilisent ces recours maraboutiques, Ils attirent également les populations qui utilisent les pratiques de soins prônant le recours à des intercesseurs. Et c'est en cela qu'ils trouvent une clientèle auprès des Antillais, des Turcs ou des Maghrébins. Mais ils attirent également les populations qui sont intéressées par l'occultisme et les parasciences, donc des Français, en fait, des Parisiens, ou enfin des Français en général, qui ont toutes des propres raisons et des logiques pour venir chez ce marabout. Ce sont des personnes qui sont en fait à la recherche de décalages culturels, d'écarts aux normes et aux institutions de santé dans leur démarche de santé. Donc tous ces exemples-là que je viens de synthétiser sont utiles pour comprendre que les pratiques de soins chez les migrants sont complexes et que en fait elles dépendent d'un ensemble d'agencements politiques, mais aussi de choix individuels qui proviennent de différents contextes sociaux, culturels et économiques. Donc pour conclure hein, sur les quelques constats que j'ai pu vous exposer, tout ça amène à s'interroger hein, sur le contexte de construction et de reproduction des pratiques de santé, que ce soit des pratiques de santé dans le domaine du biomédical ou des pratiques de santé dites traditionnelles chez les populations migrantes, et amène à s'interroger sur les mobilités de ces savoirs de santé en étudiant à la fois tout ce qui peut se passer à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle transnationale, hein, de toute cette émergence dont je parlais de capitalisme médical global. Donc aujourd'hui, hein, les grandes questions qui restent sont quelle utilisation de ce qu'on appelle les médecines traditionnelles ou de ces médecines qui deviennent complémentaires et alternatives quand elles sont transférées à la population locale. Donc quelle utilisation en est faite par les populations migrantes ? Qu'est-ce que cela implique en termes de développement de réseaux transnationaux, mais aussi de réseaux locaux de patients et de praticiens ? Quelles sont les modalités de ces échanges de savoir entre les populations locales et entre les populations migrantes? Donc ça, pour l'instant, enfin, dans la recherche, c'est un processus qui est encore occulte sur lesquels moi je m'interroge beaucoup. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on peut faire comme recoupement quand on étudie ces médecines traditionnelles et ces pratiques de soins entre fonctionnalité médicale, c'est-à-dire pour quel type d'affection est-ce qu'on utilise les médecines traditionnelles, fonctionnalité sociale, est-ce que les médecines traditionnelles pourraient permettre un maintien du lien social au sein des populations de migrants, est-ce qu'on peut considérer ces médecines comme des ressources dans la migration, et enfin, fonctionnalité culturelle, en quoi est-ce que ces médecines aujourd'hui, elles rentrent dans la fabrication de l'identité ethnique en répondant plutôt au processus de métissage qu'on observe dans un petit peu tous les domaines de la vie en société, que ce soit chez les migrants ou la population générale. Voilà, je vous laisse sur ces interrogations. Merci.
Question par rapport, ça marche, par rapport aux médecines traditionnelles, donc les tradis et praticiens qui sont répertoriés par l'OMS. Sur quels critères l'OMS s'est-il fondé pour inclure certaines pratiques traditionnelles et en exclure d'autres?
Ah oui, c'est très très intéressant comme processus sur tout ce qui a été mis en œuvre par l'OMS. Alors, je l'avais noté là, je voulais vous épargner la définition, mais je l'ai. Déjà, sur ce que l'Organisation mondiale de la santé considère comme médecine complémentaire ou alternative. Non, en fait, ils font la différence à l'OMS entre médecine complémentaire et alternative et médecine traditionnelle. En gros, médecine complémentaire et alternative, c'est tout cet ensemble de médecines alternatives qui ont été créées en Europe. Alors, homéopathie, ostéopathie, qu'est-ce qu'il y a encore comment ? Non, ça c'est médecine chinoise. Ouais, ça ils l'ont fait rentrer dans les médecines traditionnelles, si je ne me trompe pas. Ouais. En fait, bon, de toute façon, leur définition est assez floue, je vais la lire après. Mais donc, en gros, il y a ces médecines donc, qui sont vraiment très très proches des savoirs médicaux. pas biomédicaux, mais en tout cas qui ont été créés en contexte européen. Et toutes les médecines, alors qui sont complètement occultes parce que, alors, pour l'OMS, parce qu'elles ont été, elles proviennent de savoirs extrêmement anciens, consignés dans des textes en langue vernaculaire dans d'autres pays. Donc déjà, dans ce que l'OMS considère comme médecine complémentaire et alternative, on a, ouvrez les guillemets, toutes les thérapies qui font appel à l'usage de médicaments à base de plantes, parties d'animaux ou de minéraux, mais aussi à des thérapies qui se font sans apport médicamenteux, mais avec des apports manuels et spirituels, tels l'acupuncture ou le yoga. Donc ça, ce n'est des... voilà, non, en fait, comme tu disais, pour eux, en fait, c'est de l'ordre de la médecine complémentaire et alternative. Mais voilà, moi, je faisais la confusion, parce que l'acupuncture, absolument pas alternative, c'est un savoir extrêmement ancien quoi, en Chine. Et dans médecine traditionnelle... Alors là, on a les systèmes de médecine traditionnelle tels que la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda indien et l'Unani arabe avec diverses formes de médecine indigène. Voilà. Donc c'est très, très, c'est extrêmement large. Alors dans la liste qui a été donnée par l'OMS, en gros, tout ce qui a été mis sur cette liste de médecine alternative, de médecine traditionnelle, c'est uniquement les médecines qui pouvaient être traduites en termes biomédicaux, enfin qu'il y avait des techniques qui pouvaient être traduites en termes biomédicaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la médecine avait une démarche en termes de diagnostic, voilà, elle était reconnue, il y a un truc, alors bon, l'Ayurveda indien par exemple, la consultation commence par une prise de pouls, donc il n'y a pas le pouls du battement cardiaque, mais bon, le praticien relève un petit peu donc, quelle énergie circule mieux, moins bien, etc., et ce qui pourrait provoquer le désordre physique ou psychique chez la personne. Donc ça ressemble à un diagnostic, donc ok, ça peut rentrer sur la liste des médecines traditionnelles. Dès qu'il y a usage de médicaments, donc ça c'est reconnu comme un critère en fait d'appartenance donc à cette liste de l'OMS. Donc je crois que c'était diagnostic, médicaments et une technique physique qui soit clairement liée au bien-être, donc exercices physiques qui viennent du yoga, mais il y en a aussi d'autres dans d'autres médecines. Donc les critères c'était vraiment vraiment des critères qui rendent assimilables les médecines traditionnelles au savoir biomédical. Ouais.
Je voulais parler.
Ça marche.
Oui. Ça m'a évoqué un peu tout ce que tu viens de nous dire un peu. Ce qu'on peut voir aussi en Afrique, par exemple, là, pendant la crise économique, on a vu se développer énormément cette médecine traditionnelle pour des gens qui ne pouvaient plus payer les médicaments. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est le développement de ces pharmacies trottoirs où des médicaments se périmaient, sont vendus dans les rues. On les voit par exemple à Abidjan. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que bon, cette médecine traditionnelle où les gens finalement payent en nature, hein, vont donner un cadeau, un poulet pour se faire soigner, vont être à crédit, vont pouvoir payer. Est-ce que tu as pu voir par exemple un peu cette forme de médecine se reproduire un peu peut-être parmi les migrants en France dans les formes de lien, de ce lien qui s'établit entre la population et le médecin traditionnel.
Ah ouais, le paiement, c'est toute une problématique super intéressante. Alors j'ai plusieurs exemples. Donc ouais, comme tu dis, en effet, donc dans la plupart des systèmes traditionnels, on estime qu'il ne doit pas y avoir d'échange marchand entre le patient et le praticien, que le praticien dispense un savoir, donc comme il est récipiendaire de ce savoir, il est tenu de soigner la personne, et que pour le remercier, donc c'est plutôt un système de don qui est utilisé. Chez les ethnologues, hein, la question du don contre don, voilà, donc ça fonctionne comme ça. Alors, transposer en milieu occidental, alors ça devient super intéressant parce que ici tout est cher, tout est monnayable, tout se paye, tout s'échange, mais sous forme d'argent. Alors, la personne, Liliane Kuczynski, qui a fait son étude sur les marabouts, elle raconte cette histoire, enfin, ces façons de rétribuer le praticien. C'est complètement folklorique parce que donc sa clientèle est issue de différents milieux culturels. Et par exemple, elle raconte le cas d'un Antillais. Donc le marabout, un des marabouts qu'elle a étudié, ne se faisait pas payer et prenait donc des rétributions en nature. Et un des patients ou une des personnes qui est venue le consulter d'origine antillaise lui ramenait du rhum. Et en fait, le marabout, il jetait tout, quoi. Il jetait tout. Parce que, voilà, la consommation d'alcool n'est pas en adéquation avec sa pratique. Il y avait, elle raconte aussi une personne d'origine française qui va ramener au marabout des douceurs à consommer, enfin, voilà, qui n'ont rien à voir avec les pratiques du marabout en tant que personne, quoi. Et alors là, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un échange avec une personne d'origine indienne qui est venue enseigner le yoga en Belgique. Et lui se pose aussi la question. Donc normalement, sa pratique du yoga, il l'échange contre, en Inde en tout cas, un hébergement gratuit, de la nourriture gratuite, voilà, des soins de base. Enfin, quand je parle de soins, c'est de vêtements, etc., etc. Et voilà, et installé à Bruxelles, il se dit, oui, mais les gens ici, eux, ils projettent beaucoup de valeur dans l'argent, donc pourquoi j'en recevrais pas moi aussi, finalement? Et puis ici, tout est cher, et puis je suis comme tout le monde, et je dois tout me payer, et puis voilà, donc, finalement, voilà. C'est-à-dire que transposé en milieu occidental, l'argent reprend une valeur dans tout ce... Ouais. dans toute la projection de ce qu'on peut faire du soin et la façon dont on va guérir, ouais. Surtout d'autant plus si les personnes doivent se déclarer ou des choses comme ça pour être un petit peu légitimes. Donc il faut aussi voilà, à partir du moment où ils jouent le jeu de l'institutionnalisation, de la professionnalisation, voilà, ils jouent le jeu des honoraires aussi très souvent.
Bonsoir. Mon interrogation se situe principalement par rapport aux croyances des personnes dont vous avez brièvement parlé sur l'aspect religieux, mais qui n'est pas représenté comme une part entière dans la problématique de la santé. Vous avez abordé essentiellement l'approche occidentale de la santé, c'est-à-dire, et l'approche française de la santé, c'est-à-dire la maladie, guérir la maladie, soigner la maladie. Mais la santé en tant que bien est capitale pour l'individu. Hein, les pratiques de conservation de la santé, de préservation de la santé n'ont pas été abordées dans vos études, y compris dans ce que Frédéric a dit. Frédéric a beaucoup abordé le droit à la santé. Mm-hmm. Mais le droit à la santé ne fait pas l'accès à la santé. Les gens peuvent avoir le droit à la santé et ils ne sont pas soignés pour autant. Ils ont le droit à la santé. Et moi, quand j'aborde sur la question des Africains, je dis essentiellement les Africains, avant d'arriver, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la protection, ils ont un certain nombre de pratiques de conservation de la santé qu'ils perdent au fur et à mesure qu'ils s'installent durablement ici, liés au fait que le discours ambiant laisse entendre qu'on va être soigné, quelle que soit la maladie que l'on a, et sans y dépenser de l'argent. Et donc, même si on est malade, on sera soigné, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et les choses à faire pour conserver sa santé, le directeur de l'année dernière à l'ANAEM, le directeur général de l'OFI qui était là, l'a très bien dit, les migrants, la première année, ont un état de santé tout à fait correct et dès l'installation, ils rattrapent la population à catégorie socio-professionnelle égale. Toutes les pathologies liées à l'environnement ici qui viennent se greffer sur leur
peut-être pathologie d'origine ou sur leur état de santé, leur état de bonne santé de départ. Et cet aspect n'est pas abordé souvent. Lorsqu'on parle de la question des migrants et santé, la plupart du temps, on fait ce qu'on fait là, mais cette pratique-là, cet état d'esprit, quand on aborde le marabout en Afrique de l'Ouest, dans les pays sahéliens, parce qu'il n'y a pas que le marabout, hein, dans d'autres ethnies de l'Afrique de l'Ouest, il y a d'autres personnes qui s'occupent de l'état de santé global de la population en dehors du soin lorsque les gens sont malades, hein, et qui ne sont pas des marabouts. Et qui font référence beaucoup à la symbolique de la santé et aux croyances liées à la préservation de la santé. Cet aspect-là, il faut essayer de nous développer si vous avez des études là-dessus, ou voilà, peut-être faire une autre conférence un autre moment par rapport à ça. Hein, mais voilà, merci beaucoup. Ouais.
Hein? La réponse, c'est qu'il y a une deuxième conférence le 1er décembre qui va traiter de ce sujet.
Ouais, moi, je répondrai très, très rapidement aussi, parce que enfin, après, on peut en parler très longtemps. Du point de vue de la recherche, enfin, moi, je te donnerai juste un point de vue de chercheur. Les deux questions, hein, que tu viens d'aborder sur droit à la santé ne fait pas l'accès à la santé, et en même temps, la santé traditionnelle, et qu'est-ce qui appartient aux religieux ou pas là-dedans, c'est des questions extrêmement épineuses en recherche, pour deux raisons. La première, c'est l'accès aux sources. Et la deuxième, c'est la façon d'en parler avec la personne. C'est super difficile de savoir qu'est-ce qui est du religieux, qu'est-ce qui est du spirituel, qu'est-ce qui va être de la pratique domestique, qu'est-ce qui va être de la croyance. Et c'est très flou, c'est très labile. Alors, il en existe, hein, des études sur les croyances de santé. Il en existe beaucoup dans les milieux d'origine, chez les anthropologues, hein, qui ont vraiment bien travaillé là-dessus. Et à ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup en France, tout simplement parce que la recherche migration santé ne peut pas faire uniquement cette entrée-là, cette entrée religieuse. Donc on va pouvoir la retrouver dans plusieurs études, mais plutôt diluée, en fait, dans un ensemble de choses. C'est assez sensible, la question de la religion. Ouais. Alors, c'est une approche très 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 particulière qui justement ne prend pas en compte que le religieux, et qui en même temps, moi j'ai du mal à savoir justement ce qui peut rentrer dans le religieux ou pas dans les travaux de Toby Nathan aussi. C'est extrêmement extrêmement complexe, ouais. Et sur la deuxième question de droit à la santé et accès aux soins, alors les chercheurs ont énormément de mal à travailler là-dessus, tout simplement parce qu'on a très très peu de données factuelles sur l'état de santé des migrants, tout simplement parce qu'on n'y a pas accès. Voilà. Et alors déjà, il n'y a pas de statistiques ethniques en termes de santé en France, officielle en tout cas. Après, on peut toujours en faire, hein, quand on fait des études qualitatives, on peut toujours faire rentrer en tout cas la question ethnique dans les pratiques de soins. Donc ce sont des données qu'on n'a pas. À Rennes, on a mené une étude avec des médecins, et comme je travaillais avec des médecins, ils ont eu accès à des données de la CPAM. Et ils ont pu travailler sur un tout petit échantillon comme ça de primo-arrivants, et ils ont travaillé sur leur parcours de soins entre le J1 de l'arrivée à Rennes et l'inscription au service d'accueil et d'orientation, et puis jusqu'à un moment où on perd leur trace, alors pour plusieurs raisons, hein, soit ils arrivent à s'installer, soit ils tombent dans la clandestinité. Mais l'étude de ces parcours de soins montre bien une chose en particulier, c'est que les démarches de santé ne commence pas le jour où l'ouverture des droits est faite. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à J1 peut réussir à avoir des droits ouverts à J3 si jamais, avec toutes les structures d'accueil aux migrants, on arrive à faire ouvrir des droits à certaines personnes. Mais pour autant, les démarches vers les médecins ne se font pas. Elles ne se font qu'à partir du moment où la personne entre en CADA. Et l'entrée en CADA, comme je te disais tout à l'heure, est vraiment déterminante du début du vrai parcours de soins. Et cette attente entre le premier jour de l'arrivée et l'entrée en CADA peut être vraiment très très longue. C'est-à-dire que les problèmes de santé, pendant toute cette période-là, elles passent vraiment à l'as, quoi, pendant tout ce temps-là. Et ça arrive après. Ce qui infirme en fait la thèse du migrant qui arriverait en France pour profiter du système de soins ou qui arriverait en France pour se faire soigner. Là, avec les sources qu'on a réussi à avoir à Rennes, on réussit bien à montrer que c'est absolument pas le cas pour la très très grande majorité des migrants. Ouais.
Par rapport à la population qui arrive, est-ce qu'il y a d'autres structures telles que la vôtre? Comment ça s'est organisé
sur la Vienne? En fait, pour l'instant, il y a 135 places sur la Vienne, en fait, parce qu'il y a 100 places qui sont gérées par l'ESP, il y a 35 places qui sont à Sommières-du-Clain, donc en milieu rural, qui sont gérées par la Croix-Rouge. Après, sur l'ensemble de la région, il y a 440 places. Il y a de mémoire 85 places sur Angoulême, il y en a une centaine, 100-120 sur Niort, et à peu près la même chose sur La Rochelle, enfin La Rochelle, Rochefort-Sainte, parce qu'en fait ils travaillent sur les différents territoires. Alors après, est-ce que c'est suffisant? De mon point de vue, non, forcément. De toute façon, il y a 20 000 places, il y a à peu près 30 000 demandeurs par an, les personnes restent entre 12 et 14 mois en CADA. Ce qui fait que il y a un taux de rotation qui de toute façon mathématiquement est insuffisant, ou en tout cas est supérieur au nombre de places qu'on peut offrir. Donc non, c'est insuffisant. Alors après, là, il y a un appel à proposition qui est sorti ce matin et qui prévoit, enfin officiellement, parce que la presse en a parlé un petit peu, il y a 1000 places simplement supplémentaires qui sont prévues à l'horizon juillet 2010. Mais c'est 1000 places réparties sur la France. Donc, mais non, c'est insuffisant. Ça, c'est clair. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Brigitte, effectivement, et pour compléter, effectivement, quand les personnes arrivent en CADA, effectivement, il y a de l'accès aux droits, il y a de l'accès aux soins. Et c'est vrai que si, de manière générale, pour les migrants, on arrive à avoir très, très peu de données, l'OFI fait ce travail statistique, en fait, depuis maintenant un certain temps. Et on arrive à avoir des données statistiques intéressantes sur l'état de santé, sur l'accès aux soins, et sur l'amélioration de l'état de santé et l'amélioration de l'accès à la médecine. Alors la médecine de ville chez nous est très peu la médecine traditionnelle. Et par contre, moi, ça me soulevait une interrogation par rapport entre la médecine traditionnelle et la médecine ici, et les praticiens et les pratiques des praticiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Moi, ça m'a fait redondance avec la pratique de l'excision, qui peut être faite par des praticiens venu d'ailleurs, qui peut être faite ici d'ailleurs ou ailleurs sur des temps de vacances, etc. Et là, il y a une confrontation entre un système culturel, des connaissances conjointes et partagées, et la pratique religieuse au milieu de ça, qui fait qu'on a des pratiques plus ou moins arbitraires suivant qu'on est de telle ou telle culture. Et après, nous, on travaille aussi de temps à autre sur les problématiques de réparation liées à l'excision, ici sur Poitiers, mais aussi sur Nantes. Et là aussi, vient se percuter toute la problématique sociale, socioculturelle, la place de l'individu une fois qu'il y a eu réparation, et cette place dans cette nouvelle société qu'il doit se trouver. Et là, il y a des paradoxes et des confrontations qui sont intéressantes à étudier et à vivre. Enfin, pour nous, à étudier. Pour eux, un peu plus difficile à vivre.
Le rapport de l'INSEM 2008, octobre 2008, ça tombe à point nommé, qui démontre très bien que malgré le droit à la santé, les femmes originaires d'Afrique subsaharienne sont celles qui présentent le plus fort excès de risque de mortalité, avec un risque de décès 5 fois plus élevé que les femmes françaises. Elles ont droit à la santé, elles ont droit à la maternité, elles ont droit à tout le système, mais elles ont un risque 5 fois plus élevé que la majorité des Françaises de décéder à la maternité. Ce qui veut dire que le droit à la santé et l'accès aux soins restent quelque chose à travailler. Et le lien entre les deux n'est pas souvent perçu par les personnes migrantes une fois installées.
J'en profite pour souligner aussi d'autres publications récentes qui sont en ligne et qui sont disponibles gratuitement. Il y a une étude, donc l'étude que tu cites, elle est disponible gratuitement sur le site de l'INSERM. Il y a une étude qui est sortie par l'IRDES, qui date de la semaine dernière ou d'il y a deux semaines, qui s'appelle l'accès aux soins des... c'est la médecine de ville et les migrants, en fait, en France. Et alors là, ce sont des chercheurs, économistes, sociologues, statisticiens, qui ont travaillé sur les données de l'enquête population et protection sociale de l'INSEE, qui ont extrait de cet échantillon-là un échantillon de personnes d'origine étrangère. Et ils sont allés, ils sont repassés après l'enquête pour mener toute une série de questions sur la santé perçue et les pratiques de soins. Et ils soulignent bien dans leur étude que à catégorie socio-professionnelle égale, à revenus égaux, les immigrés ont un recours moindre à la médecine de ville. Donc voilà, toujours sur cette même thématique, droit et accès sont pas pareils. Et le dernier rapport de Médecins du Monde aussi, qui est en ligne sur le site, et qui s'appelle, je ne sais plus, mais en tout cas... L'observatoire. Ouais. Et là, qui souligne bien que les parcours qui mènent, il est très très clair. Ouais, c'est vrai, super document pédagogique d'ailleurs pour ceux qui enseignent ou qui voilà. Qui souligne bien que les parcours qui ont mené les migrants jusque dans le pays d'accueil ne sont en rien liés à la santé, c'est-à-dire que le phénomène du migrant qui viendrait en France pour se soigner et pour profiter du système de soins n'est absolument pas inexistant, il est très très marginal, quoi. Et dans ce rapport, hein, ils appellent clairement dès la première page, ils rappellent clairement au gouvernement des différents pays européens que les politiques de santé, que l'accès aux droits des étrangers ne doit pas être soumis aux politiques d'immigration des pays en vigueur pour respect de l'accès universel aux soins. Voilà. C'est un rappel très très fort.
Oui, hein, à la fois du point de vue des droits de l'homme, mais aussi du point de vue de la rationalité de politique de santé publique, qui est complètement aberrante en plus.
De la même façon, pour ajouter encore une couche, là à Rennes aussi, le dernier échange qu'on a pu avoir dans une conférence de ce type autour des questions de culture, grossesse et naissance, l'association des mamans d'origine africaine de Rennes était venue en force pour souligner que le taux de césarienne chez les femmes africaines était nettement plus élevé aussi que chez les femmes françaises. Donc c'est une situation qui est prise pour une preuve supplémentaire de discrimination et qui reflète bien encore ces écarts sur le dialogue, en fait, sur la langue et les dialogues entre les praticiens de santé et les femmes. En gros, en fait, un acte de césarienne permet de se passer, en fait, du dialogue avec la personne, et ça, c'est extrêmement mal vécu par ces femmes.
C'est de la discrimination inconsciente, hein, parce que dans la formation médicale, c'est bien précisé, c'est l'OMS qui a dit les Africaines ont un canal un bassin étroit systématique.
Oui, mais par rapport à des normes nord-européennes, quoi. Oui, voilà. Sans apporter.
Moi, je suis née, je faisais 3 kilos de sang. Elle est aussi petite que moi. Moi, j'ai accouché un enfant ici de 3 kilos, 470, je suis césarisée. Aucune de mes soeurs n'est césarisée. Et on a trouvé ça aberrant. Je suis rentrée, j'ai dit que j'étais césarisée. Comment
Oui. Et là, et là, et toi, le bébé va souffrir. Mmh. Oui,
oui. Oui, très, très global. Oui.
Ça n'est pas propre à la situation qui vient d'être relevée. Il se trouve que je m'occupe très rapidement. Il se trouve que je m'occupe de l'association France Alzheimer sur le secteur de Poitiers. Je suis donc attaché en tant que bénévole à m'occuper justement de l'accueil des malades, de l'orientation des malades, mais aussi j'essaie d'étudier comment auprès des populations étrangères. Nous pouvons organiser des modes d'accompagnement et de soins si possible. Enfin, on ne parle pas de soins vraiment, mais en tout cas d'accompagnement sur l'évolution de la situation de la personne, puisqu'il n'y a pas de guérison possible. Donc il se trouve, moi, que j'ai accompagné des familles iraniennes ou algériennes. J'ai pu organiser ensuite les rapatriements des corps, par exemple, du corps, par exemple. Alors, par contre, vis-à-vis de l'INSERM, on a très peu de chiffres. Pas de chiffres, on n'a pas d'études. Alors, on a des études franco-françaises, on a des choses assez poussées, PACWIT par exemple, qui font des choses assez intéressantes avec des protocoles statistiques assez poussés, etc. Mais quand on veut chercher dans la littérature, même internationale, sur certaines pathologies, sur ces pathologies-là, mais rien du tout, le vide sidéral. Comme si on voulait préserver une forme de recherche et une forme ensuite de recherche et d'application vis-à-vis d'une certaine communauté scientifique ou médicale. Mmh. Et c'est vrai que ça nous inquiète beaucoup. Mmh. Mais moi, au sein de cette association, je voudrais faire bouger certaines lignes. Et je venais ce soir en voulant vous interroger sur ces questions-là.
Mmh. Alors, je pourrais pas vous faire une réponse brève, je pourrais pas vous proposer de... Mais moi je suis confrontée voilà au même problème de l'accès ouais de on n'a pas de facteur enfin de possibilité d'expliquer comme ça, mais non, le problème de l'accès aux sources est extrêmement problématique dans la donc comme je disais tout à l'heure, dans la mesure où on répertorie pas les patients en fonction de leur origine ethnique, et que Alzheimer c'est une maladie donc qui a été déclarée prioritaire dans la santé publique alors je saurais pas dater comment. Ouais. Ouais. Mais je veux dire, en France ou en milieu européen, c'est une maladie qu'on a compris dont on a compris les mécanismes très très récemment. C'est une maladie qui a été remise en haut des rangs prioritaires de traitement dans le système de santé publique très récemment. Et comme toutes ces maladies, donc on étudie pour l'instant la marche globale avant d'aller voir dans ces spécificités ethniques ou même régionales, parce que je ne sais même pas si on peut avoir accès à des sources régionales, enfin plus micro-locales par exemple, qui pourraient révéler des incidences, enfin des prévalences plus importantes à des échelles plus micro. Voilà, c'est en cours. Donc, si vous voulez, cette espèce de protocole à la fois qui dépend de la santé publique et qui dépend de la façon dont les chercheurs vont pouvoir accéder aux données et les traiter de la façon dont ils l'entendent, il y a des processus extrêmement longs. Le traitement du saturnisme qui touche très majoritairement des enfants de migrants, on a mis très très longtemps avant de mettre le doigt là-dessus, et il a fallu, Didier Fassin l'explique bien dans ses articles, réduire les seuils aussi de tolérance dans les analyses médicales, etc., pour vraiment se rendre compte que le problème était extrêmement important chez les populations migrantes. Et à mon avis, il y a comme ça tout un tas d'étapes de légitimation par les pouvoirs publics. Et c'est vraiment triste à dire pour un chercheur de ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, qui fait que nous, on ne peut pas avoir accès à ces sources pour l'instant. Je pense qu'il faut surveiller les études nord-américaines qui ont plus accès à ces données-là. Et puis, de toute façon, donner l'alerte en permanence sur ces questions-là.
Oui, excusez-moi, on parlemente parce qu'il faut qu'on arrête. Donc,
foutu dehors.
C'est l'heure. Donc, merci beaucoup merci à tous les deux. Et donc, rendez-vous le 1er décembre pour la deuxième partie d'une soirée qui sera aussi passionnante que cette soirée qui a vraiment été extrêmement intéressante. Voilà, merci.